Les podcasts du Collège de France, philosophie.
La semaine dernière, j'avais commencé à vous parler d'un texte de Leibniz qui m'a toujours personnellement beaucoup intrigué, qui se trouve dans les opuscules et fragments inédits publiés par Cotura. Et je crois que j'avais oublié de vous dire qu'il existe une traduction de ce texte-là et d'un certain nombre d'autres dans un recueil qui a été... Ce recueil-ci qui a été compilé par Jean-Baptiste Rosy sous le titre « Recherche générale sur l'analyse des notions et des vérités ». C'est le titre d'un texte de Leibniz. Mais il n'y a pas que ce texte-là. Donc il y a ça s'appelle « Recherche générale sur l'analyse des notions et des vérités », 24 thèses métaphysiques et autres textes logiques et métaphysiques. Alors, ça a été publié aux Presses universitaires de France en 1998. Alors, vous pourrez vous reporter, si vous le souhaitez, à la traduction de ce fragment, auquel on a donné comme titre « Sur les vérités nécessaires et contingentes », mais c'est un titre qui n'est pas de Leibniz. Ce fragment est en fait non titré et non daté. Il date probablement de 1689. Donc, vous pouvez le retrouver dans ce recueil, si vous le souhaitez. Alors, je dois indiquer d'ailleurs que je me sers non pas de cette traduction-là, mais d'une traduction que j'avais faite pour mon propre usage il y a déjà bien longtemps. Mais il n'y a que des différences assez peu importantes. Alors, j'avais le passage qui nous intéresse particulièrement, sur lequel j'aimerais que nous nous attardions un petit peu aujourd'hui, c'est le passage qui commence par la constatation du fait que il y a chaque série de choses possibles. Hein. Rappelez-vous que Dieu, pour créer le monde qu'il a décidé de faire passer à l'existence, a choisi entre une infinité de mondes possibles, et chaque série de choses possibles, susceptibles de constituer un monde, est caractérisée par une série de lois qui lui est propre, qui sont des lois qui absolument universelles, hein, c'est-à-dire des lois qui sont valides sans aucune espèce d'exception, donc elles sont caractéristiques de la série de choses en question, et Leibniz prend bien soin de distinguer de ces lois-là, qui sont, encore une fois, des lois qui sont dotées d'une universalité absolument stricte. Il distingue de ces lois-là des lois qu'il appelle des maximes subalternes, des lois de la nature subalternes, qui sont valides seulement avec des exceptions. Alors, les dites exceptions étant constituées par le fait que Dieu peut juger bon, dans certains cas, de faire une exception à ces lois sous la forme d'un miracle. Donc, elles sont valides universellement à cette réserve près. Et une chose importante, évidemment, le fait que, j'avais déjà indiqué, nous n'avons accès qu'à des lois de généralité intermédiaire. C'est-à-dire nous n'accédons ni à une connaissance complète des individus, nous n'avons pas de connaissance complète des propositions singulières, et nous n'avons pas non plus des propositions qui font intervenir des individus, et nous n'avons pas non plus de connaissance complète des lois qui sont absolument universelles. Nous sommes malheureusement cantonnés. Nous n'avons accès qu'à la connaissance des lois de généralité intermédiaire, et c'est à cette catégorie qu'appartiennent les lois de la nature. Donc notre science, si vous voulez, pour l'essentiel, est constituée de la connaissance que nous avons de ces lois de généralité intermédiaire. Alors, en ce qui concerne la connaissance des lois absolument universelles, Leibniz dit « Cette connaissance est nécessairement propre à Dieu seul, et il ne faut cependant pas être perturbé par le fait que j'ai dit qu'il existait certaines lois qui sont essentielles à cette série de choses, alors que j'avais dit pourtant plus haut que ces mêmes lois ne sont pas nécessaires et essentielles, mais contingentes et existentielles. » Et là, Leibniz prévient une objection possible qui consisterait à dire que finalement ces lois sont bel et bien nécessaires et non pas contingentes, puisqu'il a dit qu'elles sont essentielles à la série de choses considérées. Mais effectivement, elles sont essentielles à cette série de choses, puisque, comme je l'ai dit, elles la caractérisent. Si Dieu avait fait le choix d'une série de choses différentes, cette série serait caractérisée par des lois qui lui sont tout aussi essentielles et qui lui sont propres. Donc ces lois, bien qu'elles soient absolument universelles, valides sans exception, n'en sont pas moins des lois contingentes et existentielles. Car, comme le fait que cette même série existe est contingent, le fait que Dieu ait choisi cette série est contingent, ce fait dépend d'un libre décret de Dieu, même ces lois sont contingentes, donc les lois de la série concernée sont contingentes, du moins absolument, hypothétiquement néanmoins nécessaire et essentiel seulement une fois la série posée. Donc elles sont essentielles une fois que, si on considère comme acquis le choix de la série concernée. Alors nous en arrivons à la question du statut des substances que Leibniz appelle libres ou intelligentes. à propos de laquelle il dit que les substances libres ou intelligentes ont quelque chose de plus grand et de plus admirable, à l'imitation de Dieu en un certain sens, de sorte qu'elles ne sont liées par aucune espèce de loi de l'univers subalterne certaine. Donc il semble dire que les substances, le comportement des substances libres et intelligentes n'est soumis à aucune loi de l'espèce de ce que nous appelons les lois de la nature. Elles ne sont liées par aucune espèce de loi de l'univers subalterne certaine. Mais ces êtres-là, donc ces substances-là, agissent, pour ainsi dire, par un miracle privé, un quasi privato quodam miraculo. Donc ces substances-là agissent spontanément à partir de leur propre puissance et, par la considération d'une certaine cause finale, interrompent l'enchaînement et le cours des causes qui agissent sur leur volonté. Donc là, il suggère quelque chose comme une interférence qui est susceptible de se produire, si vous voulez, entre l'intervention des causes efficientes d'un côté et celle des causes finales de l'autre, et donc il y aurait comme une espèce d'interruption de l'enchaînement des causes au sens de la causalité efficiente par la prise en considération des causes finales. C'est pourquoi, dit-il, il est vrai qu'il n'y a aucune créature cardiognostesse, c'est-à-dire connaisseuse du cœur humain, qui puisse prédire à coup sûr ce qu'un esprit choisira selon les lois de la nature, de la même manière que, par ailleurs, ce que fera un corps, si le cours de la nature n'est pas interrompu, peut être prédit au moins par un ange. Donc peut-être nous ne sommes pas en mesure de le prédire, mais en tout cas, il est prédictible, et il est prédictible à partir de lois qui appartiennent à la catégorie de ce que Leibniz appelle les maximes subalternes. Alors j'avais indiqué déjà que cette suggestion que fait Leibniz, que les actes libres pourraient être considérés en un certain sens comme des espèces de miracles, cette suggestion est à première vue surprenante. Ne serait-ce que déjà simplement parce que les miracles sont censés constituer des exceptions, et même des exceptions rarissimes, alors que les actions libres n'ont apparemment rien d'exceptionnel et donnent l'impression de faire partie du comportement le plus normal et le plus régulier de l'être humain. Il semblerait qu'un peu par essence, hein, les actions libres font partie du comportement normal et même du comportement régulier de l'être libre. Mais il y a une chose dont il faut se souvenir ici, qui est importante, je crois, c'est ce que dit Leibniz dans une formule célèbre et souvent citée, à savoir que nous ne sommes empiriques que dans les trois quarts de nos actions. C'est une formule qui revient à différentes reprises chez lui. Nous ne sommes qu'empiriques dans les trois quarts de nos actions, et à mon avis, c'est encore une litote, hein. On pourrait dire qu'au fond, nous sommes empiriques dans certainement plus des trois quarts de nos actions. Les actes véritablement libres, si on entend par là, comme le fait Leibniz, ceux qui impliquent la spontanéité jointe à la délibération, je reviendrai sur la façon dont il définit la liberté, la plupart du temps, donc, il la définit comme une spontanéité rationnelle ou comme étant donc, la spontanéité jointe à la délibération. Or, les actes qui sont libres, en ce sens, qui font intervenir la spontanéité jointe à la délibération, ne représentent effectivement, selon toute probabilité, qu'une sorte d'exception que l'on pourrait être tenté de considérer comme un peu miraculeuse. Parmi les lois qui gouvernent la série tout entière des choses que Dieu a décidé de faire exister comme étant la meilleure, il faut distinguer, avons-nous vu, des lois essentielles à la série que nous ne sommes pas en mesure de connaître, qui sont, dit Leibniz, je cite, « vraies sans exception », qui contiennent tout le projet que Dieu a eu en choisissant l'univers et pour cette raison incluent même les miracles. Donc ces lois-là incluent même les miracles. Et puis, de ces lois suprêmes, on peut déduire des lois de la nature subalterne, comme les appelle Leibniz, qui, je cite, « n'ont de nécessité que physique, auxquelles une dérogation peut être apportée par un miracle en raison de la considération d'une cause finale préférable. » Donc, vous voyez, là, à nouveau, il y a cette idée qui est suggérée assez fortement d'une sorte d'interférence qui se produit entre le règne des causes efficientes et le règne des causes finales. Alors, comme je l'ai rappelé, les interventions miraculeuses de Dieu devraient justement, en principe, rester des exceptions. Sans quoi, on ne pourrait sûrement pas dire du monde réel qu'il est le meilleur de tous, c'est-à-dire celui qui se caractérise par la plus grande simplicité des lois combinée avec la plus grande variété des phénomènes. Ou encore, comme dit aussi Leibniz, qui se caractérise par la production du plus grand effet avec le minimum de dépenses. C'est aussi une des formules qu'il utilise pour caractériser la situation. Or, l'exception devenait en quelque sorte la règle, évidemment, on a l'impression qu'il serait difficile de maintenir de conserver la certitude que le monde qui a été créé est bien celui qui est le meilleur de tout ce qui était possible, si, encore une fois, le meilleur des mondes possibles veut dire celui qui réussit à produire le maximum d'effets avec le minimum de dépenses. C'est d'ailleurs une des objections bien connues que Leibniz a contre le système newtonien de l'attraction universelle. De l'aveu de Newton lui-même, en effet, ce système risque d'obliger Dieu à intervenir constamment pour effectuer des corrections ponctuelles qui sont de nature miraculeuse et qui sont nécessaires pour entretenir le mouvement, faute de quoi il finirait probablement par s'arrêter. Donc il y a un ralentissement du système qui menace et qui oblige Dieu à effectuer de temps à autre des opérations ponctuelles pour entretenir le mouvement du système. Alors cela signifie aux yeux de Leibniz que ou bien les Newtoniens n'ont pas compris ce qu'est au juste un miracle, puisqu'ils n'hésitent pas d'une certaine façon à généraliser les miracles, alors que ceux-ci devraient en quelque sorte par essence rester des exceptions, donc ou bien ils n'ont pas compris réellement ce qu'est un miracle, ou bien leur système est faux. Et vous voyez par exemple, parmi de nombreux autres textes qu'on pourrait citer sur ce point, voyez ce passage d'une lettre de Leibniz à Jean Bernoulli, qui est du 7 juin 1716, où Leibniz dit « J'ai montré que d'après Newton, il faut des miracles fréquents ». Donc vous voyez là, déjà, ça ne va plus, parce que à partir du moment où les miracles deviennent fréquents, ils ont un statut qui n'est plus tout à fait celui qu'est supposé être le statut des miracles. « J'ai montré que d'après Newton, il faut des miracles fréquents pour tenir en équilibre les comptes de la nature ». Et les justifications fournies par Clark me font comprendre que lui-même n'a pas une bonne notion du miracle. Il est d'avis en effet que les miracles ne diffèrent des choses naturelles que de notre point de vue, comme des choses moins usuelles. Mais selon les théologiens et la vérité, les miracles, du moins ceux qui relèvent d'un ordre supérieur, comme de créer, d'anéantir, les miracles transcendent toutes les forces de la nature créée. C'est pourquoi tout ce qui est inexplicable, à partir des natures des choses, comme l'attraction newtonienne générale de la matière, donc vous voyez que Leibniz considère que l'attraction universelle n'est pas explicable à partir de la nature des choses, donc elle ne pourrait être expliquée finalement que par une sorte de miracle, probablement de miracle répété. Donc tout ce qui est inexplicable à partir des natures des choses, comme l'attraction newtonienne générale de la matière et les autres choses du même genre, ou bien est le fait de miracle, ou bien est absurde. Fin de citation. Donc c'est tiré d'une lettre à Jean Bernoulli du 7 juin 1716, que vous trouvez dans les Mathematische Schriften. Alors sur ce point, il y a également un passage intéressant dans la Théodicée qui contient une critique en règle de Bell. Il est reproché à Pierre Bell donc d'avoir une conception de la nature des lois, précisément des lois de la nature, qui aux yeux de Leibniz n'est pas acceptable. Alors oui, ce qu'il dit en haut de la page 316. À propos de Dieu, hein, il insiste sur le fait, mais il le fait souvent et sous différentes formes, il insiste sur le fait que Dieu ne peut se déterminer qu'en fonction de considérations générales. Il n'a pas à tenir compte du singulier, donc il se détermine toujours en fonction de considérations et de règles générales. Il ne saurait se déterminer sur Adam, sur Pierre, sur Judas, sur aucun individu, sans qu'il y eût une raison de cette détermination, et cette raison mène nécessairement à quelque énonciation générale. Le sage agit toujours par principe, il agit toujours par règle et jamais par exception que lorsque les règles concourent entre elles par des tendances contraires ou la plus forte l'emporte autrement, ou elles s'empêcheront mutuellement, ou il en résultera quelque troisième partie, et dans tous ces cas, une règle sert d'exception à l'autre sans qu'il y ait jamais d'exception originale auprès de celui qui agit toujours régulièrement. Donc vous voyez, ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'y a pas de... il n'y a pas d'exception au sens absolu. Hein. Il y a une règle. Ce qui peut arriver, c'est évidemment qu'une règle comporte des exceptions apparentes qui devront être expliquées par le recours à une règle plus générale. Donc il y a une confrontation entre des règles de différents degrés de généralité, et c'est ce qui engendre donc cette apparence d'exception. Mais encore une fois, il n'existe rien de tel que ce qu'il appelle dans ce passage des exceptions originales, c'est-à-dire des exceptions qui seraient en quelque sorte des exceptions intrinsèques, hein, et non pas des exceptions à l'ordre lui-même, hein, et non pas des exceptions simplement à une règle donnée, mais susceptibles d'être expliquées par une règle plus générale. Alors vous voyez également ce que dit Théophile donc, dans la page suivante, hein, le paragraphe 340, où Leibniz développe la critique qu'il a, l'objection qu'il a contre Bell, et il reproche à Bell, au fond, d'accuser Dieu d'une forme de paresse, si vous voulez. C'est-à-dire, il suggère clairement que Dieu, en se donnant un peu plus de mal, c'est-à-dire en acceptant de faire un peu plus d'exceptions aux lois générales, hein, en particulier aux lois de la nature, en prenant la peine de faire un peu plus d'exceptions, il aurait pu, par exemple, diminuer la quantité de mal existante. Nous sommes tous tentés, évidemment, n'importe quel croyant est tenté de croire ça, c'est-à-dire est tenté de penser qu'il y a des maux qui auraient pu être évités si Dieu avait consenti à faire plus de miracles, s'il avait consenti à faire davantage d'exceptions aux lois générales. Alors, une telle façon de considérer les choses constitue aux yeux de Leibniz une incompréhension gravissime. Ça revient à se méprendre de façon fondamentale sur la façon dont Dieu a procédé. Alors, en ce qui concerne l'idée que Bell se fait des lois de la nature, Leibniz dit « il les croit arbitraires et indifférentes et il objecte que Dieu eût pu mieux parvenir à son but dans le règne de la grâce s'il ne se fût point attaché à ces lois, s'il se fût dispensé plus souvent de les suivre ou même s'il en avait fait d'autres. Il le croyait surtout à l'égard de la loi de l'union de l'âme et du corps, car il est persuadé avec les cartésiens modernes que les idées, à l'occasion des mouvements du corps, n'ont rien qui représente ces mouvements ou qui leur ressemble, de sorte qu'il était purement arbitraire que Dieu nous donna les idées de la chaleur, du froid, de la lumière et autres que nous expérimentons, ou qu'il nous en donna de tout autre à cette même occasion. » Et là, Leibniz livre une critique qu'on trouve aussi à d'autres endroits chez lui. Il y a une façon de considérer les idées de ce qu'on appelle les qualités secondes, c'est-à-dire des choses comme la chaleur, la couleur, etc., qui consiste à considérer que le rapport qu'elles entretiennent avec leur cause est purement arbitraire, c'est-à-dire que Dieu aurait pu faire, par exemple, que la chaleur, dont nous savons nous qu'elle est une agitation, qu'elle est représentée du point de vue physique par ce qu'on appelle l'énergie cinétique des molécules, donc Dieu aurait pu faire que le mouvement des molécules, par exemple dans un gaz, que le mouvement des molécules donne lieu non pas à une sensation de chaleur, mais à une sensation de nature complètement différente, y compris par exemple une sensation de froidure. Et il aurait pu faire ça parce que encore une fois, la relation qui existe entre les sensations qui sont suscitées dans l'âme et ce qui se passe d'abord dans les corps physiques extérieurs et ensuite dans le corps, donc la relation entre ces deux sortes de choses est considérée comme purement arbitraire. Alors il faut se souvenir que c'est une chose que conteste radicalement Leibniz, hein, c'est-à-dire même les idées des qualités secondes, comme celle de la couleur ou celle de la chaleur, qui sont des idées confuses, n'en représentent pas moins confusément les mouvements auxquels elles correspondent dans le corps et dans les corps du monde extérieur. Il y a bel et bien une relation de représentation et par conséquent une relation de correspondance, hein, entre ces idées, les qualités secondes, comme celle de la couleur ou de la chaleur, et les mouvements correspondants. D'une part dans le corps propre et d'autre part dans les corps du monde extérieur qui agissent sur notre appareil sensoriel. Alors, donc, si vous voulez, Bell est accusé par Leibniz de s'être mépris fondamentalement sur la nature, la façon exacte dont Dieu a procédé et sur ce que sont exactement les lois de la nature. Alors, quand Leibniz dit que Dieu connaît parfaitement la force de son décret, ce qu'il veut dire, c'est que la série de choses qu'il a choisies ne peut comporter aucune indétermination d'aucune sorte. Donc Dieu sait exactement ce qu'il a fait, il sait exactement comment il a procédé, il sait exactement à quel genre de considération et à quel genre d'obligation il a obéi, et par conséquent, la série de choses qu'il a créées ne peut comporter aucune indétermination. C'est un point qui, aux yeux de Leibniz, c'est tout à fait crucial. Si la série de choses que Dieu a créées recelait des virtualités qui peuvent aussi bien se réaliser que ne pas se réaliser, cela signifierait que Dieu n'en a pas eu une connaissance parfaite avant de décider de la faire exister et que par conséquent, il ne pouvait pas être assuré qu'elle était réellement la meilleure de toutes. Je me permets d'insister sur ce point parce qu'il est tout à fait crucial. Il a fallu que Dieu procède avec une connaissance parfaite de ce qu'il était en train de faire. Et ça implique, on peut trouver ça surprenant et même un peu choquant, que la série de choses qu'il a créées ne pouvait comporter réellement aucune indétermination. Parce que si les choses avaient été susceptibles d'évoluer aussi bien dans un sens que dans un autre, d'une façon qu'il n'était pas possible de connaître a priori le genre de calcul auquel Dieu a dû se livrer au départ pour être certain que le monde qu'il allait décider de faire passer à l'existence était bien le meilleur de tous, tous ceux qui étaient possibles. Ce genre de calcul aurait été impossible. Justement, il n'aurait pas pu savoir exactement, il n'aurait pas pu avoir une connaissance parfaite de ce qu'il était en train de faire. Il est donc tout à fait inconcevable que le monde que Dieu a choisi de créer soit, par exemple, un monde du genre de celui que décrit William James dans « La volonté de croire », c'est-à-dire un monde qui comporte des virtualités dont il n'a pas été décidé au départ si elles se réaliseraient ou non. Vous avez ici un passage qui est un extrait du livre de William James, donc « La volonté de croire ». William James, dans ce passage, suggère qu'après tout, peut-être Dieu n'a déterminé que le plan général. Il n'a déterminé que le plan général. Il a laissé en blanc certaines choses. Et pour ce qui les concerne, donc, les choses peuvent tourner soit dans un sens, soit dans l'autre. Et si d'aventure, il se trouvait que l'évolution du monde dévie un peu trop de l'orientation générale qu'il a déterminée, eh bien à ce moment-là, il peut se donner le droit d'effectuer des interventions ponctuelles. Le point important, donc, c'est qu'il n'a pas déterminé les choses jusque dans les plus petits détails. Et j'étais en train de dire que c'est quelque chose qui est à peu près impossible à accepter pour... qui est rigoureusement impossible à accepter pour Leibniz, encore une fois, parce que ça impliquerait que Dieu n'a pas pu procéder avec une connaissance parfaite de ce qu'il était en train de faire. Alors, en ce qui concerne l'idée de James, vous voyez le passage donc, qui figure à la page 188, hein, il dit « Le plan du Créateur, dans l'hypothèse que j'ai indiquée, hein, c'est-à-dire celle dans laquelle il aurait déterminé seulement le plan général, le plan du Créateur resterait ainsi en blanc quant à un grand nombre de ces détails actuels, mais toutes les possibilités seraient enregistrées. La réalisation de certaines d'entre elles serait absolument abandonnée au hasard, ce qui veut dire qu'elle ne serait déterminée qu'à la minute précise de cette réalisation. » Donc, vous voyez, il serait impossible de savoir avant ainsi ces choses-là, ces éventualités vont se réaliser ou non. « D'autres possibilités seraient déterminées de manière contingente, c'est-à-dire que la décision à prendre à leur égard serait subordonnée aux résultats produits par le simple hasard, mais le reste du plan, y compris l'issue finale, serait rigoureusement fixé une fois pour toutes, de sorte que le Créateur n'aurait pas besoin de connaître tous les détails des phénomènes actuels tant qu'ils ne se sont pas réalisés. Et à n'importe quel moment, sa vision de l'univers serait semblable à la nôtre, c'est-à-dire composée en partie de faits et en partie de possibilités. Il est une chose, cependant, dont il pourrait être assuré, c'est que son univers est sauf et qu'en dépit de bien des zigzags, il pourra toujours le ramener dans la bonne voie. » Donc, vous voyez, il aurait toujours la possibilité, s'il s'aperçoit que le cours des choses n'est pas conforme au plan général qu'il a arrêté, il aurait toujours la possibilité d'intervenir. Dans cette conception, dit William James, d'autre part, une question demeure du domaine immatériel, celle de savoir si le Créateur entend résoudre par lui-même les possibilités au moment opportun, ou si, au contraire, il entend déléguer ses pouvoirs et laisser à une créature finie telle que l'homme, le soin de prendre les décisions nécessaires. Le grand point est que les possibilités existent. Peu importe que nous les réalisions nous-mêmes ou qu'elles soient réalisées par le Créateur à travers nous, à ces moments d'épreuve où la balance du destin semble trembler et où le bien arrache la victoire au mal ou se retire sans force de la bataille. L'essentiel est d'admettre que le résultat ne saurait être décidé ailleurs qu'ici et maintenant. Comme on l'a vu, j'ai déjà eu l'occasion d'insister plusieurs fois sur ce point, ça ne peut pas se passer de cette manière-là pour Leibniz. À ses yeux, donc, il a fallu que les choses soient arrêtées dès le départ complètement, déterminées jusque dans les plus petits détails. Alors, voyez sur ce point un commentaire qu'il fait sur le récit de la Genèse. C'est dans un fragment qui s'appelle « Notes sur les quatre premiers chapitres de la Genèse selon les principes d'une certaine théologie singulière ». C'est un fragment qui est daté, avec un point d'interrogation, de août-septembre 1696 et qui est reproduit dans les opuscules et fragments inédits publiés par Gaston Grua, excusez-moi. Donc non pas dans les opuscules et fragments inédits publiés par Couturat, mais dans les textes inédits d'après les manuscrits de la bibliothèque de Hanovre publiés par Gaston Grua dans le volume 1 à la page 99. Alors, Leibniz cite donc le récit de la Genèse, vidit Deus quod esset bona, Dieu vit que ces choses-là étaient bonnes, donc c'est dans la Genèse 1, 3. Dieu vit que ces choses-là étaient bonnes, il a vu, il a considéré, il a pensé, à part lui certes, mais néanmoins comme un objet différent de lui. La vision est véritablement une certaine production par le verbe de l'esprit, comme on l'a déjà noté un certain nombre de fois, et elle ne doit pas être prise comme on a coutume de le faire vulgairement, comme si Elohim, c'est-à-dire Dieu, avait créé d'abord la lumière et avait ensuite vu, comme par expérience, qu'elle était bonne. Vous savez, dans la Genèse, il y a le fait, bon, Dieu créa telle ou telle chose, et puis, bon, il vit que cela était bon. Et la mise dit non, ça n'a pas pu se passer comme littéralement, comme le suggère le récit de la Genèse. Ce n'est pas du tout comme s'il avait d'abord fait les choses, puis ensuite il les avait regardées plus attentivement pour voir s'il avait bien fait. Ça n'est pas satisfaisant, dit la mise. Donc cette façon de voir la bonté des choses est indigne de Dieu, à qui il convient de voir les choses a priori. Qui plus est, il est indigne de tout être sage de faire d'abord et de considérer ensuite si cela a été bien fait. Far primo e pensar poi. La mise dit en italien faire d'abord et penser ensuite. Donc ça, faire d'abord, réfléchir après, c'est quelque chose qui est tout à fait indigne de Dieu et par conséquent, il ne peut pas sur ce point prendre, dans le sens chronologique, si vous voulez, ce que dit le récit de la Genèse. Il n'est pas possible de suggérer qu'il a d'abord créé quelque chose, puis ensuite il l'a regardé pour voir s'il était aussi bon qu'il en avait l'air. En vérité, par conséquent, dit Leibniz, en voyant, il a fait, ou en voyant, il a dit, en disant, il a fait, ou en voyant que c'était une chose bonne, il l'a voulu, en voulant, il l'a fait. Fin de citation. Donc Leibniz pense que le monde que Dieu a créé ne peut pas comporter d'indétermination, parce que si c'était le cas, on ne pourrait pas savoir a priori, mais seulement après coup, si c'est ou non le meilleur. N'oubliez pas qu'une connaissance par expérience, ou une connaissance empirique ou quasi-empirique est tout à fait indigne de Dieu. La seule forme de connaissance qui est digne de Dieu, c'est la connaissance par les raisons, c'est encore un point fondamental sur lequel nous aurons à revenir. Donc, il faut que dans tous les cas, Dieu ait eu la possibilité de savoir et ait su depuis le début ce qui allait se passer. Donc, c'est pour ça qu'il est tout à fait impossible que le monde comporte des possibilités dans la perspective qui est adoptée par William James, que le monde comporte des possibilités dont on ne peut savoir que le moment venu si elles se réaliseront ou ne se réaliseront pas. Évidemment, c'est un point sur lequel on peut se poser une multitude de questions. Est-ce qu'un monde de cette sorte est réellement le seul qui soit digne de Dieu pour ceux qui croient en lui? Et il ne va pas de soi non plus, il faut le dire également, que la bivalence soit constitutive de la nature même de la vérité, ou encore, et encore moins, qu'elle puisse être déduite de l'omniscience divine. Le point de vue de Leibniz implique évidemment que le principe de bivalence, c'est-à-dire le principe selon lequel toute proposition est soit vraie, soit fausse, y compris les propositions concernant le futur. Et bien sûr, on peut se demander d'une part si le principe de bivalence est réellement constitutif de la nature de la vérité. Faut-il accepter l'idée leibnizienne qu'il n'y aurait plus de vérité digne de ce nom, on ne saurait plus véritablement ce qu'est la vérité si l'on devait tolérer des exceptions, l'existence d'exceptions au principe de bivalence? Et faut-il accepter d'autre part l'idée assez répandue que l'omniscience divine implique la bivalence? Du moment que Dieu connaît tout ce qui arrivera, du moment qu'il connaît tout ce qui arrivera, toutes les propositions qui décrivent des événements futurs doivent être soit vraies, soit fausses. Alors, certains d'entre vous qui étaient là les années dernières se souviennent peut-être que j'avais cité à ce propos un extrait d'un ouvrage de Michael Dammett qui s'appelle « La base logique de la métaphysique » dans lequel il conteste catégoriquement, et je crois avec d'assez bonnes raisons, que la bivalence puisse être considérée comme une conséquence de l'omniscience. Et ce qui veut dire, en gros, c'est que c'est pas parce que Dieu a une connaissance précise de tout ce qui arrivera qu'on peut tirer de cela la conclusion que toute proposition concernant un événement futur est soit vraie, soit fausse. S'il était vrai que toute proposition concernant un événement futur, quel qu'il soit, est soit vraie, soit fausse, alors Dieu saurait à propos de toutes les propositions concernant le futur si elles sont vraies ou fausses. Mais ça, pour ça, il faut avoir accepté d'abord la bivalence. Si vous avez accepté la bivalence, sans restriction, vous serez évidemment amené à dire que toute proposition, y compris une proposition concernant un événement futur, est soit vraie, soit fausse, et comme Dieu, en vertu de son omniscience, sait tout, il sait forcément à propos de cette proposition si elle est vraie ou si elle est fausse. Mais, encore une fois, ça suppose que vous ayez accepté d'abord l'idée de bivalence sans aucune espèce de restriction. Alors, Dammett dit ceci, j'ai entendu soutenir que c'est une doctrine athée, parce que supposé être une doctrine athée, c'est l'idée que le principe de bivalence comporte des exceptions. Donc, c'est supposé être une doctrine athée pour la raison que Dieu, qui n'est pas sujet à nos limitations, doit savoir à propos de toute proposition si elle est vraie ou fausse. De sorte que notre incapacité de déterminer cela ne devrait pas conduire un théiste à mettre en doute l'ambivalence. Donc, en gros, ça revient à dire, si on croit en Dieu, on ne devrait pas mettre en doute l'ambivalence. Cet argument commet une pétition de principe en assumant que toute proposition est soit vraie, soit fausse. Donc, encore une fois, la position correcte consiste à dire que si toute proposition est soit vraie, soit fausse, alors Dieu sait à propos de toute proposition si elle est vraie ou si elle est fausse, mais on ne peut pas raisonner en sens inverse. Pour dire les choses de façon un peu irrévérencieuse, Dieu ne parle pas notre langage. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Le recours à la connaissance de Dieu ne sert en aucune façon à expliquer en quoi consiste notre connaissance des conditions qui doivent être remplies pour que nos propositions soient vraies s'il n'y a pas d'explication de cela sans le recours en question. Le recours est pertinent pour ce qui est de la distinction entre la réalité telle qu'elle nous apparaît et la réalité telle qu'elle est en elle-même. Nous aspirons à nous rapprocher le plus possible d'une appréhension de la façon dont elle se présente en elle-même, mais cette expression n'a pas de sens défendable dans un univers incréé ou s'auto-créant. Tout comme il n'y a pas de faille entre la vérité d'une proposition et la connaissance que Dieu a du fait qu'elle est vraie, l'expression « comment les choses sont en elles-mêmes » n'a en fin de compte pas de signification distincte de « comment Dieu les appréhende comme étant ». Alors là, bon, j'avais déjà parlé de ça il y a quelques années, Damet considère qu'au fond, un vrai réaliste doit à peu près nécessairement être théiste, hein, c'est-à-dire pour la raison que, quand comme nous le faisons tous, quand on utilise le contraste classique, si vous voulez, entre la manière dont les choses apparaissent et la manière dont elles sont en elles-mêmes, il est extrêmement difficile de renoncer à cette distinction. Bien d'après Damet, le seul sens qu'on peut donner en fin de compte, si vous voulez, à ce qu'on appelle la manière dont les choses sont en elles-mêmes, par opposition à la manière dont elles nous apparaissent, la seule façon de donner un sens à cette expression est d'identifier la signification qu'elle a à la manière dont Dieu les appréhende comme étant, hein, puisque pour lui, il n'y a pas de contraste de cette sorte entre la manière dont les choses sont et la manière dont elles apparaissent. Par définition, la manière dont elles lui apparaissent est la manière dont elles sont, et il n'y a pas moyen, selon Demet, hein, de possibilité réelle de donner un sens à cette expression, comment les choses sont en elles-mêmes, autrement que de cette façon-là. Sauf, dit-il dans cette interprétation, la prétention d'avoir décrit le monde comme il est en lui-même, une description qui assumera un caractère mathématique toujours plus purement formel, dans la mesure où il est progressivement vidé des termes dont les significations dérivent de nos facultés d'observation, donc sauf dans cette interprétation, l'usage de ce mode d'expression qui fait référence à la manière dont les choses sont en elles-mêmes, n'a pas de signification acceptable, n'a aucun caractère intelligible, dit Damet. Mais il n'y a pas de raison pour laquelle Dieu, en créant l'univers, devrait avoir rempli tous les détails, avoir fourni des réponses à toutes les questions concevables, pas plus qu'un artiste humain, un peintre ou un romancier, n'est contraint de le faire. La conception d'un univers créé, mais partiellement indéterminé, est plus facile à comprendre que celle d'un univers incréé et partiellement indéterminé. Donc là, vous voyez que Damet prend position très nettement, et de façon qui pourrait sembler un petit peu surprenante. Il considère que on peut tout à fait se représenter un univers qui serait un univers créé, mais qui comporterait une part d'indétermination. La conception d'un univers créé, mais partiellement indéterminé, d'après lui, c'est une chose plus facile à concevoir que l'idée d'un univers qui serait incréé et partiellement indéterminé. Il va sans dire que c'est peut-être plus facile à concevoir pour Damet, mais sûrement pas pour Leibniz. C'est bien clair que pour lui, l'idée d'un monde créé qui ressemblerait à celui d'un romancier, en ce sens que son créateur n'aurait pas jugé bon de remplir tous les détails, il n'aurait pas pris toutes les décisions concernant ce qui arrive à ses personnages. Donc, l'idée d'un univers de ce sens, qui serait un univers qui serait l'œuvre d'un artiste, non pas que on ne puisse pas dire que l'univers de Leibniz n'est pas l'œuvre d'un artiste, c'est aussi bien sûr dans son esprit l'œuvre d'un artiste, mais c'est l'œuvre d'un artiste mathématicien, hein, qui a effectué jusque dans le moindre détail le calcul qui est exigé par la recherche de la meilleure solution possible au problème qu'il s'agit de résoudre. Donc l'idée d'un monde créé qui ressemblerait à celui d'un romancier, ou plus généralement d'un artiste, et qui comporterait par conséquent une part d'indétermination, parce qu'il n'aurait pas jugé bon de répondre à toutes les questions, cette idée-là est complètement étrangère à Leibniz. Son Dieu, à lui, encore une fois, peut être comparé à un mathématicien, qui a été capable de décider au départ, par le calcul, toutes les questions qui pouvaient se poser. Bien sûr, l'auteur du monde tel que le comprend Leibniz ne peut pas être comparé à un auteur de roman. Alors revenons à la question des miracles personnels, si on prend au sérieux la formule de Leibniz, dont l'être humain est capable et qui ont eux aussi, hein, ces miracles-là, si c'est bien de miracles qu'il s'agit, ont eux aussi leur raison ultime qui est connue a priori de Dieu autant que ses miracles à lui. Et les actions libres de l'individu sont inscrites de toute éternité dans sa notion et se produiront de façon aussi certaine et infaillible que ses actions les plus contraintes et, d'un point de vue humain, les plus prévisibles. Alors, voyons encore sur ce point ce passage qui est tiré d'un fragment qui s'intitule « De la série des choses, des corps et des substances et de la prédétermination ». Un fragment qui date de mars 1690, dans lequel Leibniz dit « Il faut distinguer entre les séries de choses possibles et les séries de choses actuelles. Dieu, parmi les possibles infinis, choisit une certaine série de l'univers consistant dans une infinité de substances, dont chacune effectue une série infinie d'opérations. Or, si Dieu n'avait pas connu à l'avance ni préordonné la série des choses actuelles, il s'ensuivrait qu'il a jugé avec une connaissance de cause insuffisante et a choisi une chose qu'il n'avait pas examinée assez à fond. » Donc nous retrouvons le problème que lui pose le récit de la Genèse. Il ne faut surtout pas s'imaginer que Dieu a agi d'abord et réfléchi ensuite. Il n'a agi que sur la base d'une connaissance de cause parfaite. Ça implique évidemment qu'il a tout décidé, qu'il a tout connu à l'avance, et comme dit Leibniz, tout préordonné jusque dans le plus petit détail. Il a choisi... Sinon, on pourrait le soupçonner d'avoir choisi une chose qu'il n'a pas examinée assez à fond. Et on ne peut pas accepter du reste les actions libres des esprits parce qu'elles constituent une partie de la série des choses et ont une connexion importante avec toutes les autres choses, de telle sorte qu'une chose ne peut être comprise parfaitement sans l'autre. Donc les actions des êtres libres ne constituent pas une exception à ce que je viens de dire. Elles ont dû, elles aussi, être prises en considération dès le départ dans le calcul que Dieu a effectué. Et étant donné, dit Leibniz, que toute série ordonnée implique une règle de continuation ou une loi de progression, et là vous voyez qu'il se représente vraiment les choses de façon strictement mathématique, hein, sous la forme de la continuation d'une suite, par exemple d'une suite de nombres, hein, quelqu'un qui est sur la base d'un fragment limité a réussi à appréhender la loi de la suite, c'est comment ça continue. Ah ben, Dieu, c'est vrai dans son cas de façon tout à fait générale, hein, à partir de n'importe quel fragment de la série, il peut reconstituer à la fois ce qu'il y a eu avant et ce qu'il y aura après. Donc, en examinant à fond, et étant donné que toute série ordonnée implique une règle de continuation ou une loi de progression, Dieu, en examinant à fond n'importe quelle partie de la série, voit par le fait en elle toutes les choses qui précèdent et toutes celles qui suivent. Et pourtant, la liberté des esprits n'est pas supprimée par là. Une chose, en effet, est la certitude infaillible, une autre, la nécessité absolue, comme saint Augustin et le docteur Thomas, ainsi que d'autres savants hommes, l'ont reconnu depuis un certain temps. Assurément, la vérité ou la fausseté des futurs contingents, même libres, serait déterminée, même si on se l'imaginait inconnue. Donc oui, le ministre dit que même si personne ne connaissait la vérité ou la fausseté des propositions décrivant des événements futurs contingents, donc dans l'hypothèse où Dieu lui-même ne saurait pas ce qu'il en est, il n'en reste pas moins que cette valeur de vérité des propositions décrivant des événements futurs contingents, cette valeur de vérité serait déterminée. C'est pourquoi la préscience de Dieu, et à plus forte raison la préordination, ne supprime pas la liberté. Il faut savoir du reste que l'esprit n'est pas déterminé par autre chose, mais par lui-même, et qu'il n'y a aucune hypothèse qui favorise plus que la nôtre la liberté humaine, puisque une substance créée n'exerce pas d'influence sur une autre, et que bien, donc comme vous savez, les substances, j'aurai aussi l'occasion d'y revenir, les substances créées ne s'influencent pas les unes les autres sous le mode de l'influx physique. Hein. Leibniz dit une substance créée n'exerce pas d'influence sur une autre, et bien au contraire, l'esprit tire toutes ses opérations de son propre fond, en dépit du fait que sa nature a été ordonnée depuis le début, de manière telle que ses opérations conspirent, concordent, si vous voulez, avec les opérations de toutes les autres choses. Donc il y a les relations d'interaction causale, hein, entre les substances sont remplacées dans le système de Leibniz par des opérations de coordination, des opérations de corrélation qui ont lieu, qui résultent des lois de l'harmonie préétablies. Alors, après avoir dit toutes ces choses, j'espère que vous avez commencé à comprendre un peu mieux ce qui peut autoriser finalement Leibniz à rapprocher, comme il le fait, le cas des actions de l'esprit de celui des miracles. Il veut dire que, aussi bien les actions de l'esprit en général que les miracles qui ont lieu de temps à autre dans la nature ne peuvent être prédits que sur la base d'une connaissance des lois les plus universelles de la série à laquelle il ne nous est pas donné d'accéder. C'est seulement la connaissance de ces lois, donc qui sont des lois valides de façon absolument universelle, valides sans restriction, des lois qui ne connaissent pas d'exception. C'est seulement une connaissance qui nous est refusée dans les faits de ces lois-là qui nous permettrait de prédire les actions des êtres libres, lesquelles sont, encore une fois, tout aussi prédictibles, en principe, que les autres. Mais il y a, en même temps, une différence importante et qui soulève un problème réel. Nous pouvons prédire, à partir de leur état actuel et des lois de la nature que nous connaissons, qui ne sont, rappelons-le, que des maximes subalternes, nous pouvons prédire le comportement futur des corps physiques. Mais d'après Leibniz, rien de tel ne peut être fait en ce qui concerne les actions de l'esprit. Il n'y a pas, dit-il, de loi universelle subalterne qui permettrait de les prédire, même avec d'éventuelles exceptions, au sens auquel il y a des lois universelles subalternes qui permettent de prédire le comportement normal des corps en faisant abstraction de la possibilité que Dieu ait décidé, pour des raisons supérieures, de faire, dans le cas considéré, une exception miraculeuse. Dans le cas du comportement des corps de la nature, donc nous pouvons le prédire avec une certitude suffisante, à ceci près que Dieu peut avoir décidé de temps à autre de faire une exception aux lois de la nature en effectuant un miracle, pour des raisons qui sont bien entendu, les miracles ont, encore une fois, eux-mêmes leurs raisons et font partie de ce qui est exigé pour que le monde qui a été créé soit réellement le meilleur de tous, c'est-à-dire celui dans lequel on peut obtenir le maximum d'effets avec la dépense la plus réduite. Donc, d'après Leibniz, en ce qui concerne les actes libres, la situation est différente, puisque dans leur cas, on n'a même pas de possibilité qui correspondrait à celle qui nous est donnée dans le cas de quand nous cherchons à prédire le comportement des êtres naturels. On pourrait envisager qu'il soit possible, sur la base de certaines lois appartenant à la catégorie de ce que Leibniz appelle des maximes subalternes, on pourrait imaginer qu'il soit possible de les prédire à certaines exceptions près. Hein, c'est-à-dire que là aussi, il y aurait des exceptions, il y en aurait même peut-être plus que dans le cas du comportement des corps physiques. Mais Leibniz semble dire que même ça, hein, c'est une chose à laquelle il nous faut renoncer. Autrement dit, d'après Leibniz, loin de constituer des épisodes exceptionnels et plus ou moins incompréhensibles, les actions libres sont en fait déductibles de certaines lois, mais et explicables à partir des lois en question, mais seulement de lois dont nous ne pouvons pas espérer avoir une connaissance quelconque. Ce sont, encore une fois, les lois qui sont propres à la série de choses essentielles, comme il dit, à la série de choses concernées, qui sont valides sans aucune espèce d'exception. Et selon lui, donc, pour être en mesure de prédire les actions des êtres libres, il faudrait avoir une connaissance de ces lois-là, et on ne peut pas espérer effectuer des prédictions satisfaisantes, c'est-à-dire qui comportent un degré suffisant de certitude et qui soient réellement utiles, hein, en s'appuyant simplement sur ce qu'il appelle des maximes subalternes ou des lois de la nature subalternes. Notez à ce propos qu'il y a une tendance à concevoir la liberté très répandue qui consiste à associer celle-ci intrinsèquement à la fantaisie, l'imprévisibilité et l'irrégularité. Je n'ai pas dit qu'il était absurde de considérer la liberté de cette façon. Il est clair qu'on a tendance à la considérer de cette façon. On est supposé être d'autant plus libre que les actions qu'on effectue sont moins susceptibles d'être expliquées par des lois et prévues à partir d'elles. C'est ce qu'on pourrait appeler, je vais appeler ça la conception du caporal Trim, en référence à la vie et les opinions de Tristram Shandy, de Lawrence Stern. Presque à la fin du roman, donc il y a un épisode qui est assez amusant. C'est un épisode dans lequel il se trouve que donc le Toby, bon, se demande depuis un bon moment s'il doit ou non épouser la veuve Wada. Et le caporal Trim, bon, qui est tout à fait hostile à cette éventualité, enfin qui cherche à tout prix à l'en dissuader, lui raconte une histoire horrible pour le convaincre. C'est l'histoire de qui est arrivé, je crois, son, je sais plus si c'est son neveu ou son cousin, enfin Tom, qui, bon, il a fini par se marier. Alors ça a entraîné des conséquences catastrophiques et le caporal Trim dit à l'oncle Toby, vous savez, quand on est en prison, c'est pour longtemps et quelquefois même c'est pour toujours. Et bon, dans le contexte de cette discussion, le caporal Trim dit, rien n'est si terrible que d'être enfermé toute la vie et rien de si doux que la liberté. Rien, caporal, dit mon oncle tristement pensif. Donc là, l'oncle commence à réfléchir. Quand on est libre, s'écria Trim, en décrivant en l'air avec son bâton le trait suivant, vous avez le trait sous les yeux, comme vous remarquerez dans ce que j'ai appelé la conception de la liberté dans la version du caporal Trim, la liberté, c'est quand même, ça implique tout de même une certaine régularité dans l'irrégularité. Mais il y a quand même cette idée que le être libre, bon, ça veut dire la notion de liberté, donc liée intrinsèquement à celle de fantaisie et d'irrégularité. Alors, Sterne dit un millier des plus subtils arguments de mon père, dans Tristram Shandy, le père de Tristram est un raisonneur absolument abominable, il n'arrête pas de faire des syllogismes à peu près sur tous les sujets, ce qui fait que, Sterne dit un millier des plus subtils arguments de mon père n'en aurait pas autant dit en faveur du célibat. Mon oncle regarda avec intérêt sa maison et son boulingrin, le caporal, avec sa verge, venait d'évoquer imprudemment l'esprit de calcul et de réflexion. Et il n'avait autre chose à faire que de l'exorciser avec son histoire. Il le fit ainsi. Bon, je passe sur la suite de l'histoire, qui est l'histoire abominable donc, du cousin Tom, auquel il est arrivé ce que je vous ai dit. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai parlé de ça ? Mais parce que si vous voulez, quelque chose dans cette idée de la liberté, bon, celle du caporal Trim, qui est aussi celle, je crois, que nous adoptons assez spontanément. Il y a l'idée donc qu'il y a une espèce d'antinomie, il y a une contradiction, si vous voulez, entre la loi d'un côté et la liberté de l'autre. En tout cas, je ne veux pas dire la loi morale, si vous voulez, mais des lois, il y a une certaine antinomie, en tout cas une certaine difficulté à concilier entre elles l'idée de régularité naturelle et de loi naturelle avec l'idée de liberté. Par définition, la liberté semble impliquer la capacité de faire des exceptions aux lois comprises de cette façon. Mais j'avais déjà eu l'occasion de souligner à différentes reprises, et je me permets de le faire une fois de plus, que Leibniz ne considère pas la liberté de cette façon. Pour lui, la question de la liberté n'a pas grand-chose à voir avec la question de savoir si le comportement des êtres libres obéit ou non à des régularités et à des lois qui permettent, au moins en principe, de le prédire. Même si les actions des êtres libres étaient suffisamment régulières pour qu'on puisse envisager sérieusement de les prédire à l'aide de lois de la nature subalternes, ce qui n'est pas le cas, comme on l'a vu pour Leibniz, même si donc elles possédaient cette caractéristique qui permettrait en principe de les prédire à l'aide de lois de la nature subalternes, cela ne les empêcherait pas nécessairement d'être libres. Il n'y a pas encore une fois, il n'y a aucune contradiction aux yeux de Leibniz entre le fait pour une action d'être libre et le fait d'être prédictible et explicable à partir de lois d'une certaine sorte. Et il faut se souvenir que, de toute façon, les actions des êtres libres obéissent bel et bien à des lois qu'il ne nous est pas donné de connaître, mais qui sont d'une certaine façon encore plus strictes que les lois de la nature subalterne, puisqu'elles ne comportent pour leur part absolument aucune exception. Pour essayer d'y voir un peu plus clair sur cette question, je vais citer ce que dit Rawls, auquel je m'étais déjà référé à plusieurs reprises. Je vais citer ce qu'il dit dans ses leçons sur l'histoire de la philosophie morale à propos de l'impossibilité dans laquelle nous sommes de prédire le comportement des êtres libres. C'est une chose qui, de toute évidence, l'a frappé dans la lecture de Leibniz. Dans le cas de la physique, dit-il, ces lois, donc les lois de la physique, sont suffisamment simples pour que nous puissions prévoir les états et configurations futures des systèmes physiques à partir de la connaissance de leur état présent. Mais avec les esprits, cette prescience est impossible. S'il existe des principes en vertu desquels les pensées et les actions des esprits peuvent être prévues par Dieu, ces principes nous sont en général inconnus. Si je comprends bien Leibniz, il semble que ces principes puissent être différents en fonction des divers individus, même s'il existe des principes communs, Celui qui veut, par exemple, que nous fassions des choix conformes au plus grand bien apparent. Je crois cependant que Leibniz rejette l'idée que la science naturelle ou la réflexion sociale soient capables d'établir des lois et des principes à partir desquels on puisse prédire de façon générale nos décisions et actions. En matière de décisions pratiques, notre tâche est de faire de notre mieux pour délibérer et choisir sagement. Fin de citation. Nous connaissons effectivement dans ce domaine, c'est-à-dire le domaine des actions libres, nous connaissons certaines lois qui sont absolument universelles, comme par exemple celle qui veut que le choix soit déterminé dans tous les cas par ce qui apparaît comme étant le plus grand bien. Donc ça, c'est une loi qui est valide aux yeux de Leibniz sans exception. Le choix que nous faisons est toujours déterminé par le plus grand bien apparent, par ce qui, le moment venu, nous apparaît comme étant le plus grand bien. Mais une loi de cette sorte n'est évidemment universelle que parce qu'elle est purement formelle et ne nous dit rien sur ce que sera le contenu réel des choix effectués. Pour savoir cela, il faudrait être capable de prédire ce qui, à chaque fois, apparaîtra comme le plus grand bien, ce que nous sommes condamnés de façon générale à ignorer, y compris du reste en ce qui concerne notre propre comportement. Nous ne savons pas que nous sommes en train de délibérer pour prendre une décision importante. Nous ne savons évidemment pas ce qui, l'instant d'après, et en tout cas au terme de la délibération, va nous apparaître comme étant le plus grand bien et va entraîner la décision, sans quoi, précisément, nous ne délibérerions pas. Donc, de façon générale, il est, tout en sachant parfaitement, et une fois pour toutes, que la décision sera déterminée par le plus grand bien apparent, nous ne sommes pas en mesure de connaître à l'avance, sur la base de certaines lois, ce qui apparaîtra à l'individu concerné le moment venu comme le plus grand bien apparent. Rawls insiste sur le fait qu'aux yeux de Leibniz, je cite, « chaque âme rationnelle, oui, je vous ai mis le texte, « chaque âme rationnelle est dotée de son principe particulier qui gouverne ses puissances actives et sa libre existence spirituelle, libre parce qu'elle relève de la raison, tant intellectuelle que délibérative. » Et la conséquence de cela est que Leibniz soutient qu'il n'existe pour nous aucune possibilité de nous servir des lois de la nature, les maximes subordonnées ou subalternes, donc il n'existe aucune possibilité pour nous de nous servir de ces lois de la nature, les maximes subordonnées, pour prévoir les pensées et les délibérations des esprits rationnels, en dépit du fait qu'encore une fois, ils sont parfaitement, ces pensées, ces délibérations sont parfaitement déterminées. Alors, sur ce point, considérons ce que dit Valéry dans Analecta, à propos de la liberté. Il y a deux ou trois passages qui sont assez remarquables, qui touchent à cette question. Et Valéry dit « La liberté suppose que quelqu'un mis exactement à ma place ferait autre chose que moi. Mais qui définira cette place ?» C'est vraiment une excellente façon excellente de poser la question. Qu'est-ce que c'est au juste que d'être exactement à ma place, si je me représente comme étant à la même place que celle dans laquelle j'ai pris ma décision et agi, et en faisant autre chose, qu'est-ce qui me garantit que la place considérée aurait bien été exactement la même? L'idée de Leibniz, c'est qu'évidemment, il y aurait forcément eu une différence dans ce qu'on appelle la place en question, qui aurait fait que j'aurais pu prendre et aurait pris effectivement une décision différente. Alors, sur la page 297, il y a Valéry émet une hypothèse qui est la suivante. Le sentiment d'être libre peut faire partie d'un être nécessaire et être en moment d'un fonctionnement régulier, comme le sentiment de voir, de marcher, fait partie d'un état de sommeil à titre de rêve. Alors là, donc, la question que Valéry pose à la page 296 est celle-ci. L'idée qu'on se fait généralement de la liberté semble impliquer effectivement que si quelqu'un d'autre ou moi-même, parce que ça pourrait tout à fait être moi, si quelqu'un d'autre ou moi-même se retrouvait exactement à la place où je me trouvais quand j'ai pris une décision libre, le système dont nous faisons partie pourrait connaître des évolutions différentes selon les cas, puisque je pourrais, toutes choses égales d'ailleurs, décider une fois dans un sens et une autre fois dans l'autre. Mais là, nous avons la difficulté que soulève Valéry. Bon, est-ce que ça n'est pas justement ce qu'on appelle être libre, précisément, l'existence de bifurcation de cette sorte de moment où toute chose égale d'ailleurs, moi-même me trouvant à une place déterminée, dans des circonstances déterminées, soumis à des des motivations, il y a des pressions de nature diverse. J'aurais pu faire autre chose que ce que j'ai fait. Bon, la difficulté, c'est effectivement, comme dit Valérie, qui définira cette place, hein, qui est supposée, tout en restant la même, autoriser des comportements différents, qui auraient introduit une bifurcation dans l'évolution du système. Donc, pour que je décide autrement, n'aurait-il pas fallu justement que toutes les choses ne soient pas égales par ailleurs et que la place que j'occupe dans l'évolution du système, à l'instant considéré, donc que cette place soit en quelque façon, soit d'une manière ou d'une autre, différente. Donc le problème, c'est vraiment de s'entendre sur ce qu'il faut comprendre exactement par être à la même place. Il est possible du reste, c'est ce qui est dit, page 297, il est possible du reste que le sentiment d'être libre, au sens dont il s'agit, c'est le sentiment que l'on aurait pu faire autrement et imprimer un cours différent aux choses, il est possible donc que le sentiment d'être libre au sens dont il s'agit ne soit rien de plus qu'une illusion qui accompagne l'action et ne l'empêche en aucune façon d'être en réalité nécessaire. Nous n'agissons pas plus librement dans la réalité, enfin peut-être pas plus librement dans la réalité que nous ne percevons ou marchons réellement dans un rêve. Nous avons le sentiment d'être en train de voir, d'entendre des choses, nous avons le sentiment de marcher en rêve, mais n'empêche que ça fait partie de l'état de sommeil, comme dit Valérie, en tout cas de l'état de sommeil accompagné de rêve. Mais en réalité, rien de tel ne se passe. Est-ce que ça ne pourrait pas être la même chose dans le cadre de la liberté ? C'est pour ça qu'il est toujours bien plus difficile qu'on ne le croit d'inférer de la sensation qu'on a d'être libre à la réalité de la liberté. Les meilleurs philosophes, en particulier Spinoza, s'en sont parfaitement rendus compte, mais c'est une chose qu'on a tendance à oublier régulièrement. La plupart des gens sont persuadés que du moment qu'ils ont la sensation d'agir librement, ils agissent librement, en oubliant précisément la possibilité qu'évoque Valérie, c'est-à-dire le fait que le sentiment d'être libre, non seulement puisse exister, puisse exister alors que tout se passe de façon nécessaire, mais soit même impliqué par ça. C'est-à-dire, comme dit Valérie, le sentiment d'être libre peut faire partie d'un être nécessaire. Ça pourrait être quelque chose comme un élément constituant précisément d'un système dont le comportement obéit rigoureusement est contraint par des lois qui sont de l'espèce la plus nécessaire qui soit. Évidemment, la possibilité évoquée par Valérie est tout à fait exclue du point de vue de la Nice, donc la possibilité que la sensation que nous avons d'être libre constitue une illusion qui fait partie du comportement normal d'un système qui, par ailleurs, est en tout point nécessaire. C'est une possibilité que Leibniz ne pourrait pas envisager un seul instant, puisque lui-même ne conteste en aucune manière que nous choisissions bel et bien librement et que nos choix libres puissent faire une différence, et même une différence importante, dans l'évolution, sans que cela oblige à remettre en question l'idée que cette évolution est déterminée et unique. Il lui faut donc montrer que choisir librement n'implique pas pouvoir faire autrement dans un sens autre que le sens simplement logique du mot « pouvoir ». Nous agissons librement et pourtant nous ne faisons jamais rien d'autre que ce qui a été déterminé et prévu dès le départ, ce qui constitue évidemment toute la difficulté. Rawls a sans doute raison de remarquer que d'un point de vue leibnizien, chaque substance libre possède d'une certaine façon sa loi individuelle qui gouverne ses puissances actives et son existence spirituelle. Mais il ne faut pas oublier que cette multitude de lois doit nécessairement se ramener en fin de compte aux lois qui sont de l'espèce la plus générale, à savoir les lois de l'harmonie universelle. Ce que Leibniz affirme dans le passage que j'ai cité est que le comportement des êtres libres est prédictible uniquement à partir de lois qui sont d'une généralité absolument sans restriction, qui peuvent expliquer tous les cas, y compris les plus particuliers, sans comporter aucun caractère ad hoc, et qui doivent néanmoins rester suffisamment simples, faute de quoi l'exigence de l'harmonie universelle ne pourrait plus être satisfaite. Mais la question reste naturellement posée de savoir s'il ne pourrait pas exister des lois de généralité intermédiaires qui sont capables d'expliquer au moins les régularités que manifeste également le comportement des êtres libres. Leibniz dit, comme on l'a vu, qu'il n'y a pas de loi universelle subalterne, certaine, qui permette de prédire avec certitude ce que fera un être libre. Cela pourrait signifier qu'il y a malgré tout peut-être des lois qui rendent possible la prédiction, mais avec une marge d'incertitude probablement plus grande que dans le cas des lois de la physique. Les lois de la physique, par exemple, c'est l'exemple le plus clair, si vous voulez, l'existence de lois de la nature subalterne qui rendent possible la prédiction avec une certitude suffisante. Et il semble difficile à première vue d'exclure complètement la possibilité qu'il existe aussi dans le cas du comportement des êtres libres, des lois qui permettent de prédire avec une marge d'incertitude peut-être, enfin presque certainement, plus grande et même peut-être beaucoup plus grande ce que feront les substances individuelles libres. Bon, en dépit du fait, si on peut dire, qu'elles soient libres. Mais c'est un point sur lequel je ne veux pas rentrer pour le moment dans les détails. Il est possible que Rawls ait radicalisé un peu la position de Leibniz sur ce point. Mais un point sur lequel il faut insister, c'est le fait que, dans ce contexte, c'est le fait que Leibniz ne commet jamais l'erreur si fréquemment commise qui consiste à confondre le déterminisme avec la prédictibilité. C'est une erreur qui est aujourd'hui difficilement excusable parce qu'on sait parfaitement qu'il existe des systèmes déterministes et qui plus est des systèmes déterministes qui sont d'une espèce relativement simple et dont le comportement est néanmoins, comme nous disons, chaotique et devient rapidement impossible à prédire. Par conséquent, je me permets d'insister sur ce fait, le déterminisme n'implique pas la prédictibilité, mais cela signifie qu'on ne peut pas non plus argumenter de l'imprédictibilité à l'indéterminisme. Le fait que nous ne soyons pas en mesure de savoir s'il y aura ou non une bataille navale demain ne constitue en aucun cas, pour Leibniz, une raison de douter que l'occurrence ou la non-occurrence de la bataille navale soit bel et bien déterminée dès à présent, et même en fait de toute éternité. Il n'est pas nécessaire pour l'instant de donner un sens plus précis à ce qu'il faut entendre ici par déterminisme. J'aurai l'occasion peut-être d'essayer d'être un peu plus précis par la suite. Le point important pour l'instant est que ce qui arrivera soit déterminé et puisse en principe être connu à n'importe quel moment antérieur, au moins par Dieu. Il peut bien sûr être important de savoir si ce qui est déterminé l'est par des causes efficientes seules, par des causes finales seules ou par une combinaison des deux, mais ce n'est pas ce qui nous importe ici. Je reviendrai plus tard sur la façon dont se combinent entre elles et s'agencent entre elles les causes efficientes et les causes finales, étant entendu que le problème doit être résolu là aussi par les lois de l'harmonie préétablie. Il n'y a pas d'influence réelle des causes finales sur les causes efficientes, ni en sens inverse. Alors l'idée importante dans la notion du déterminisme qui nous concerne pour le moment est celle de l'unicité de l'évolution, aussi bien de l'évolution qui a conduit à un état donné que de celle qui aura lieu à partir de lui. On peut formuler cette idée de la manière suivante. Un état donné de l'univers est toujours suivi et également précédé par la même histoire des transitions d'état, comme nous les appelons. Cette condition exprime la croyance laplacienne que nous pouvons et devons considérer l'état présent de l'univers comme l'effet de son état antérieur et comme la cause de l'état qui suivra. Vous voyez ce passage fameux, constamment cité, de Laplace dans l'essai philosophique sur les probabilités. Laplace dit « Nous devons donc envisager l'état présent de l'univers comme l'effet de son état antérieur et comme la cause de celui qui va suivre. Une intelligence qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, si d'ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ces données à l'analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome. Rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir comme le passé serait présent à ses yeux. » Donc elle pourrait connaître aussi bien le passé, aussi bien ce qui a précédé que ce qui suivra dans le plus petit détail. L'esprit humain offre, dans la perfection qu'il a su donner à l'astronomie, une faible esquisse de cette intelligence. Ses découvertes en mécanique et en géométrie, jointes à celles de la pesanteur universelle, l'ont mise à portée de comprendre dans les mêmes expressions analytiques, les états passés et futurs du système du monde. En appliquant la même méthode à quelques autres objets de ses connaissances, il est parvenu à ramener à des lois générales les phénomènes observés et à prévoir ceux que des circonstances données doivent faire éclore. Tous ses efforts dans la recherche de la vérité tendent à le rapprocher sans cesse de l'intelligence que nous venons de concevoir, mais dont il restera toujours infiniment éloigné. Cette tendance propre à l'espèce humaine et ce qui la rend supérieure aux animaux, et ses progrès en ce genre distinguent les nations et les siècles et font leur véritable gloire. Alors, à ce propos, bon, vous vous rappelez peut-être que j'ai cité un passage dans lequel Leibniz dit que, étant donné que toute série ordonnée implique une règle de continuation ou une loi de progression, Dieu, en examinant à fond n'importe quelle partie de la série, voit par le fait en elle toutes les choses qui précèdent et toutes celles qui suivent. Donc, à la place de l'intelligence de la place, vous mettez Dieu lui-même et vous avez une position qui ressemble vraiment de très près à celle de la place. Mais curieusement, je reviendrai sur ce point, on a adressé beaucoup de reproches à la place, on a proclamé à grand son de trompette que le paradigme laplacien devait être considéré comme définitivement caduque, mais on n'a pas pensé à formuler des objections du même genre contre Leibniz. Or, encore une fois, Leibniz défend une conception du déterminisme qui est tout à fait voisine de celle de Laplace. Bon, je ne m'attarde pas là-dessus pour l'instant, je signale tout simplement donc, sur ce genre de questions, Leibniz pensait déjà de façon fondamentalement laplacienne. En termes techniques, l'unicité de l'évolution signifie que si le modèle mathématique dont nous nous servons pour décrire l'évolution du système est ramené à son état initial, donc si nous ramenons ce modèle à son état initial, ou à l'un quelconque de ces états dans l'histoire des transitions qui s'effectuent d'un état à un autre, alors le modèle reproduira exactement la même histoire et repassera par la même succession d'états. Autrement dit, une fois spécifiées les conditions initiales, et les conditions aux limites, il n'y a réellement qu'une seule évolution possible. Le principe de l'unicité de l'évolution qui est constitutif de ce que j'appelle pour le moment le déterminisme. Et la même chose est vraie si on considère le système dans son état terminal et se demande par quelle succession d'états il est passé pour y arriver. Dans la version laplacienne du déterminisme, l'état instantané de l'univers, à un moment quelconque, détermine de façon unique son état à n'importe quel autre moment. Et j'insiste à nouveau sur le fait que c'est aussi ce que, pour des raisons différentes, évidemment sur la base d'une métaphysique qui est tout à fait différente de celle de Laplace, c'est aussi ce que pense en fait Leibniz. J'ai dit que Leibniz distinguait clairement la question du déterminisme de celle de la prédictibilité. La raison de cela est que la question du déterminisme est une question ontologique qui a trait à la nature de l'évolution de l'univers dans le temps, alors que la question de la prédictibilité est une question épistémique. Or, on ne peut pas tirer de conclusions ontologiques, de limitations ou d'impossibilités qui sont de nature épistémique. Si un système est caractérisé par ce que nous appelons la sensibilité aux conditions initiales, j'avais déjà évoqué, je crois, ce problème, donc si un système est de cette sorte-là, cela signifie qu'une différence minime dans les conditions initiales peut entraîner une différence très importante dans l'évolution future du système. Or, même si le système est incontestablement déterministe, il peut très bien se faire que les processus de mesure auxquels nous recourons pour déterminer les valeurs des variables d'état qui caractérisent son état initial, il peut très bien se faire que ces processus de mesure ne soient jamais assez précis pour qu'il devienne possible d'effectuer des prédictions suffisamment fiables sur son évolution. Dans les cas de cette sorte, ce que nous réussissons à caractériser n'est pas un système unique, mais seulement une classe de systèmes qui se distinguent l'un de l'autre uniquement, enfin en tout cas au départ, par de très petites différences dans les conditions initiales et peuvent néanmoins connaître des évolutions considérablement différentes. Il va sans dire que pour chacun de ces systèmes, la propriété qui est constitutive du déterminisme, à savoir l'unicité de l'évolution, est préservée. Mais le problème est que nous ne sommes pas en mesure de déterminer avec exactitude lequel parmi ces systèmes est celui dont nous sommes en train d'étudier le comportement et sur lequel nous cherchons à effectuer des prédictions. En d'autres termes, le manque de détermination dans la caractérisation des conditions initiales ne doit en aucun cas être interprété comme la preuve d'un manque de détermination dans l'évolution du système qui est et reste bel et bien complètement déterminé. Dans les cas comme ceux que nous sommes en train de considérer, le lien entre le déterminisme et la prédictibilité peut être affaibli, et il peut même, pour finir, être complètement rompu. Au niveau macroscopique, il peut arriver qu'un système déterministe se comporte de façon apparemment aléatoire et stochastique. Mais le problème est alors de savoir dans quelle mesure et de quelle manière nous pouvons être justifiés à croire que le comportement stochastique que nous observons est dû à l'indéterminisme sous la forme d'un élément irréductiblement stochastique ou est dû à... nous ne pouvons pas savoir si... il est dû à la présence d'un élément irréductiblement stochastique dans la réalité elle-même, ou s'il n'est pas dû plutôt à ce qu'on appelle le chaos déterministe. J'ai déjà eu l'occasion d'indiquer, j'y reviendrai le moment venu, que Leibniz a une idée tout à fait claire du genre de divorce que ce que nous appelons dans notre langage la sensibilité aux conditions initiales est susceptible d'introduire dans le déterminisme, entre le déterminisme et la prédictibilité. Je vous ai parlé de l'allusion qui fait à la façon dont Turenne a été tué par un boulet. J'aurai l'occasion de vous citer à nouveau ce passage, donc c'est très typique, puisqu'on a affaire à un système qui est le prototype d'un système déterministe, mais qui est caractérisé justement par cette sensibilité aux conditions initiales. Et Leibniz fait remarquer que si un tout petit souffle d'air à la sortie du canon avait fait dévier un tout petit peu, en fait, de façon vraiment infinitésimale au départ, la trajectoire du boulet, bon, Turenne aurait pu être épargné et des conséquences incalculables en seraient résultées pour l'histoire de l'Europe et peut-être du monde en général. Donc il a une idée tout à fait précise de la manière dont ce phénomène de la sensibilité aux conditions initiales, ce qu'on appelle aussi l'instabilité des systèmes dynamiques, est susceptible de provoquer un déterminisme qui peut aller jusqu'à un divorce complet entre ces deux notions qu'on a l'habitude de considérer comme solidaires l'une de l'autre, le déterminisme d'un côté et la prédictibilité de l'autre. Et Leibniz a par ailleurs également une position tout à fait claire et constante sur l'impossibilité de conclure du hasard ou du désordre apparent dans le comportement d'un système à la présence d'une indétermination réelle et par conséquent d'un indéterminisme objectif. Donc la difficulté, c'est de déterminer dans quel cas nous sommes fondés à conclure de la présence du hasard ou du désordre apparent dans le comportement d'un système à l'existence d'une indétermination réelle dans le système lui-même. Alors ce qui est préoccupant, vous vous en doutez, dans l'idée de l'unicité de l'évolution, pour la question qui nous intéresse, c'est-à-dire celle de la liberté, ce qui est préoccupant dans cette idée de l'unicité de l'évolution, est qu'il est exclu que le système, à partir de son état initial ou d'un état intermédiaire quelconque, engendre spontanément, dans certaines occasions, une succession d'états qui diffère aussi peu que ce soit de celle qui lui est imposée. Il n'est pas difficile de comprendre le problème que cela pose quand on a affaire à un système qui inclut comme constituant des êtres libres et qui est un système dont l'évolution est censée dépendre, pour une part au moins, de leurs décisions et de leurs actions. Car il semble que l'idée de liberté soit liée intrinsèquement à celle d'une pluralité d'évolutions possibles. Les actes libres doivent justement, semble-t-il, introduire à certains moments des possibilités de bifurcation dont le résultat ne devrait pas pouvoir être anticipé, même par un être qui est en principe omniscient. Si l'évolution est déterminée et unique, comment est-il possible qu'elle soit influencée par des décisions libres dans la façon dont on se représente généralement celle-ci ? En d'autres termes, peut-il y avoir encore une liberté si la liberté n'est pas d'abord la liberté de choisir et d'agir autrement ? La liberté de choisir autrement et d'agir autrement. Et là, nous sommes ramenés donc à l'idée de Valéry. L'idée de la liberté semble inclure que quelqu'un d'autre qui peut très bien être moi, hein, quelqu'un qui aurait été exactement à ma place aurait pu, semble-t-il, s'il est doué de liberté, faire autre chose, aurait pu agir autrement. Alors pour compléter ce que j'ai essayé de vous dire sur cette question, je propose de retourner encore un instant à Valéry, toujours dans Analecta. Valéry dit « Je ne sais plus, j'ai représenté le problème de la liberté par cette image, qu'on se figure deux mondes identiques. On remarque sur chacun d'entre eux un certain homme, le même agissant mêmement. Tout à coup, l'un des deux agit autrement que l'autre. Ils deviennent discernables. Tel est le problème de la liberté. J'ajoute aujourd'hui ceci, on peut représenter la nécessité par l'identité de deux systèmes. C'est une idée qui est tout à fait intéressante. On peut représenter la nécessité par l'identité de deux systèmes. Dire qu'une conséquence est nécessaire, c'est dire que deux systèmes identiques en A, B et C seront identiques en D, ce qui est très exactement notre principe de l'unicité de l'évolution, hein, qui est constitutif de ce que nous sommes en train de la conception que nous sommes en train de discuter sous le nom de déterminisme. Le fait que les actes libres, donc c'est toujours dans Analecta de Valéry, page 302 et 303, le fait que les actes libres soient déterminés et prévisibles pour quelqu'un qui disposerait des connaissances suffisantes ne les empêche pas, affirme Leibniz, d'être libres. Mais cela signifie, il faut le remarquer, que si nous étions en mesure de formuler des lois universelles subalternes appropriées qui permettent de les prédire, ce qui, comme on l'a vu, n'est pas le cas pour Leibniz, cela ne pourrait pas non plus menacer de quelque façon que ce soit leur caractère d'acte libre. Donc même si nous disposions de la capacité des connaissances suffisantes, hein, de la capacité de prédire les actions des êtres libres, ça ne les empêcherait pas, aux yeux de l'Aïmnis, de rester libres. Donc, encore une fois, il n'y a pas à ses yeux d'incompatibilité entre le caractère libre d'une action et sa prédictibilité. Il se trouve simplement que nous n'avons pas accès aux lois qui seules permettraient d'effectuer les prédictions en question. Mais il reste vrai que Leibniz ne raisonne pas comme nous avons tendance à le faire aujourd'hui. Il ne pense pas que pour pouvoir être libre et par conséquent créateur, parce que c'est l'objection évidemment classique contre l'idée du déterminisme, si tout est déjà... C'est déjà décidé, il peut rien se produire de véritablement nouveau, et en particulier même les actes libres ou supposés libres ne peuvent avoir aucun caractère réellement créateur. Or, il faut être conscient du fait que ce n'est pas du tout de cette manière que Leibniz voit les choses, il ne voit aucune raison de supposer que les actes réputés libres devraient être des actes qui sont imprédictibles, en tout cas imprédictibles par nous. Comme on l'a vu, si l'on en croit ce que dit Rawls, il n'existe pour nous, d'après Leibniz, aucune possibilité de nous servir des lois de la nature qui appartiennent à la catégorie de ce qu'il appelle les maximes subalternes ou les maximes subordonnées. Il n'existe aucune possibilité pour nous de nous en servir pour prévoir les pensées et les délibérations des esprits rationnels. Mais il faut remarquer cependant que nous effectuons néanmoins bel et bien des prédictions de cette sorte, sur la base de choses comme la connaissance du caractère, des inclinations et des désirs, des dispositions intellectuelles et morales de la personne concernée, du contexte de la décision, etc. Mais ce n'est évidemment pas tout à fait la même chose que de formuler une prédiction sur la base de ce qu'on appelle habituellement les lois de la nature, parce que ça fait intervenir évidemment des considérations intentionnelles. Peut-on naturaliser l'intentionnalité? S'il y a des lois qui peuvent être formulées à propos des intentions, de la façon dont elles agissent, est-ce que les lois de cette sorte peuvent être considérées au sens propre comme des lois de la nature, ou sont-elles susceptibles d'être interprétées un jour en termes naturalistes? Ce sont, comme vous le savez, des questions qui sont loin d'être résolues. Et il faut remarquer que, de toute façon, la prédiction de ce que fera un être libre, pour autant qu'elle soit possible, ne peut manquer d'être extrêmement compliquée, en raison notamment de la multiplicité et de l'hétérogénéité des facteurs qui sont susceptibles de contribuer à la décision. Il me semble que Leibniz donne une idée tout à fait claire de cela dans un passage des Nouveaux Essais que vous avez, Nouveaux Essais sur l'entendement humain, qui est reproduit ici. Voyez donc ce que dit Théophile. Plusieurs perceptions et inclinations concourent à la volition parfaite qui est le résultat de leur conflit. Il y en a d'imperceptibles à part, dont l'amas fait une inquiétude qui nous pousse sans qu'on en voie le sujet. Il y en a plusieurs jointes ensemble qui portent à quelque objet ou qui en éloignent, et alors ces désirs ou craintes accompagnés aussi d'une inquiétude, mais qui ne va pas toujours jusqu'au plaisir ou déplaisir. Enfin, il y a des impulsions accompagnées effectivement de plaisir et de douleur, et toutes ces perceptions sont ou des sensations nouvelles ou des imaginations restées de quelques sensations passées, accompagnées ou non accompagnées du souvenir, qui, renouvelant les attraits que ces mêmes images avaient dans ces sensations précédentes, renouvellent aussi les impulsions anciennes à proportion de la vivacité de l'imagination, et de toutes ces impulsions résulte enfin l'effort prévalent qui fait la volonté pleine, donc qui va déterminer la décision. Cependant, les désirs et les tendances dont on s'aperçoit sont souvent aussi appelés des volitions, quoique moins entières, soit qu'elles prévalent et entraînent ou non. Ainsi, il est aisé de juger que la volition ne saura guère subsister sans désir et sans fuite, car c'est ainsi que je crois qu'on pourrait appeler l'opposé du désir, on propose d'appeler fuite l'opposé du désir. L'inquiétude n'est pas seulement dans les passions incommodes, comme la haine, la crainte, la colère, l'envie, la honte, mais encore dans les opposés, comme l'amour, l'espérance, l'apaisement, la faveur et la gloire. On peut dire que partout où il y a désir, il y aura inquiétude, mais le contraire n'est pas toujours vrai, parce que souvent, on est en inquiétude sans savoir ce qu'on demande, et alors il n'y a point de désir formé. Bon, l'impression qu'on retire de tout ça, c'est que c'est évidemment extraordinairement compliqué, et que pour avoir la moindre chance de réussir à effectuer quelque chose qui ressemble à une prédiction, il faudrait tenir compte d'une infinité d'éléments, enfin, en tout cas, d'un nombre considérable d'éléments qui sont de nature très, très hétérogène, puisqu'il faut y inclure aussi les éléments purement accidentels, c'est-à-dire les sollicitations accidentelles qui peuvent venir de l'environnement. Alors, il se peut que la position que Rawls attribue à Leibniz soit un petit peu plus radicale en ce qui concerne la question de la prédictibilité, qu'elle ne soit un peu plus radicale qu'il est nécessaire. Mais il a raison d'insister sur un point, et c'est là-dessus que je vais terminer pour aujourd'hui, donc il a raison d'insister sur un point qui a une grande importance du point de vue pratique, à savoir le fait que pour Leibniz, Le point de vue de la délibération n'est pas et n'a pas à être le point de vue de l'anticipation et de la prédiction. Nous ne savons pas la plupart du temps ce que nous déciderons, et pas non plus si la bonne action que nous effectuons aura le résultat positif que nous en attendons pour nous-mêmes et pour le monde en général. Par conséquent, quand nous délibérons, nous ne cherchons pas à anticiper et à prévoir ce que nous déciderons finalement, mais à déterminer ce que nous devons faire. Et pour ce qui est des effets que nous sommes en droit d'attendre de notre décision, nous sommes, comme le dit Leibniz, tenus uniquement à l'intention droite et non pas au résultat. C'est ce qu'il dit à peu près textuellement, ce qui, l'obligation qui nous incombe, donc c'est d'agir en vertu d'une intention droite, mais pour ce qui est du résultat, il ne dépend que très partiellement de nous. Alors vous voyez, je voudrais terminer donc sur ce passage qui est tiré du discours de métaphysique, donc l'article 30. Quand nous délibérons et nous efforçons d'atteindre la meilleure décision possible, nous ne devrions jamais, selon Leibniz, pardon, ce n'est pas ce passage-là, ça, c'est, pour le moment c'est Rawls qui parle, mais excusez-moi, le passage se termine par une citation qui est tirée du discours de métaphysique, paragraphe 30. Donc Rawls dit, quand nous délibérons, en commentant la position de Leibniz, quand nous délibérons et nous efforçons d'atteindre la meilleure décision possible, nous ne devrions jamais, selon Leibniz, nous préoccuper d'anticiper ou de prévoir le résultat de notre décision. Ce ne serait point là délibérer, mais faire tout autre chose. Effectivement, bon, anticiper, prévoir est une chose, délibérer en est une autre. Donc ce ne serait point là délibérer, mais faire tout autre chose. De toute façon, notre action finale ne peut pas être définie par les lois de la nature ou de la réflexion sociale, dans lesquelles j'inclus par hypothèse les lois de la psychologie, si elles existent. Donc même les lois de la psychologie, aussi avancées que puisse être la connaissance que nous en avons, il ne faut pas s'imaginer, donc, d'un point de vue leibnizien, qu'une meilleure connaissance de ces lois nous rendrait capable d'effectuer des prédictions suffisamment assurées concernant le comportement, concernant les actions futures des êtres libres. Il est vrai, dit-il, que Dieu sait ce que nous finirons par décider, donc encore une fois, le résultat de la délibération est connu de Dieu, est prévu par lui. Il est vrai que Dieu sait ce que nous finirons par décider, mais ce savoir nous dépasse et n'a aucune pertinence pour notre délibération raisonnée ici et maintenant. Leibniz écrit, donc voir Discours de métaphysique, article 30, « Mais peut-être qu'il est assuré de toute éternité que je pécherai. Répondez-vous vous-même, peut-être que non. » Et sans songer à ce que... Donc, effectivement, il est peut-être assuré que vous pécherez de toute éternité, il est peut-être aussi assuré que vous ne pécherez pas. Et il est impossible de savoir ce qu'il en est. Donc, peut-être qu'il est assuré de toute éternité que je pécherai, répondez-vous vous-même, peut-être que non, et sans songer à ce que vous ne sauriez connaître et qu'il ne vous peut donner aucune lumière, donc, excusez-moi, je crois que j'ai... Oui, j'ai mis que... Sans songer à ce que nous ne sauriez connaître, corrigé, et remplacé par ce que vous ne sauriez connaître, donc sans songer à ce que vous ne sauriez connaître et qu'il ne vous peut donner aucune lumière, agissez suivant votre devoir que vous connaissez. Donc, vous savez au moins ce que vous devez faire. Vous ne savez pas, vous n'avez aucune idée de ce qui a été prévu de toute éternité, mais vous savez ce que vous devez faire. Donc, vous êtes tenu d'agir conformément à ce que la Bible s'appelle l'intention droite, évidemment sans garantie du résultat, puisque là aussi, il s'agit de quelque chose que vous ne pouvez pas savoir, ou que vous ne pouvez en tout cas connaître que de façon très imparfaite. Bien, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.